Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com.
Bonjour, bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 115. Mon nom est Paul Landriau et je suis avec mes collègues...
Rémi Fréchette
et Pascal Plante.
Donc, Rémi, re-bienvenue au Canada.
Allô! Hey, c'est vraiment le fun de revenir en enregistrement. Puis je me suis amené un petit accessoire.
Ah ouais?
Est-ce que c'est une bière bruxelloise?
Une bière belge?
Bruxelloise. Non, pas du tout, pas en tout. C'est une bière d'ici. Mais une petite bière avec vous autres, les chums. Cheers!
Ah ouais, c'est toujours mec.
Mais oui, c'est une bière de Bruxelles. On est sur un podcast, tout se peut.
Ah,
c'est le théâtre de l'esprit, le théâtre des oreilles.
Rémi, en fait, on a de quoi t'annoncer la semaine passée. Il y a deux semaines, on a fait le podcast, juste Paul puis moi, puis ça a vraiment mieux été. Fait que, t'es renvoyé du podcast.
Je suis la wild card, c'est moi qui rajoute la petite touche de chaos dans le podcast.
C'est parce qu'on a pu parler de Winter Sleep et de films comme ça, enfin, tu sais, ça a comme été plus fun, non, c'est pas vrai. Oh,
t'accepte,
Rémi Fréchette. Hey, tu vas nous parler de plein de films fantastiques, là, de BIFF?
Déjà, c'est quoi le BIFF, pour ceux qui savent pas c'est quoi?
Donc, le BIFF, c'est le Bruxelles International Fantastic Film Festival.
Parce qu'il y a trois F, là, c'est BIFF.
Ouais. Puis même dans l'annonce, c'est genre « In science fiction and horror and blablabla ». Puis quand la pub, elle passe dans la salle, au début, les gens écrient « C'est trop long !» Fait que ça fait partie de l'expérience du BIFF. C'est un festival équivalent fantasieux. C'est une plus petite programmation, mais c'est très, très festif. Les réactions dans la salle sont un peu comparables à un Rocky Horror Picture Show, mais à toutes les projections. Donc, même si le film, c'est un drame, même si le film est très mauvais, en fait, surtout si le film est très mauvais, les gens écrivent tout le long du film, puis ils lancent des commentaires, puis c'est comme permis au BIFF. Donc ça fait partie de l'ambiance. Des exemples, par exemple, quand quelqu'un se fait tuer dans un film, il y a quelqu'un qui va crier dans la salle « Pourquoi il est si méchant? » Puis là, tout le reste de la salle va répondre « Parce que! » Ou si deux personnages s'embrassent, tout le monde fait « dans la salle. C'est comme si c'est des codes qui sont convenus avec le public, qui sont au BIFF depuis toutes ces années-là, qui se répètent à tous les screenings.
Et toi, t'étais là pour présenter Les Jaunes, donc.
Exactement. Donc Les Jaunes, on vous a assez cassé les oreilles avec ça. Je pense pas que je vais faire le résumé du film.
Mais un peu la réaction de la salle.
Les différences,
Ben, en fait, ce qui est drôle, c'est que moi, je suis arrivé la journée même où je présentais le film, donc j'étais vraiment en décalage, puis le film était présenté à minuit et demi. J'ai fait une sieste, je pense, d'une heure dans mon hôtel, fait que j'ai pu récupérer un peu, mais quand même, j'étais dans une zone autre. Puis, en fait, ce qui a manqué au film, c'est des sous-titres en français. Ce qu'on s'est peut-être pas assez posé la question avant de quelle façon on allait le présenter. Il y avait des sous-titres anglais, il y avait des sous-titres flamands, mais les Belges francophones, ils ont été assez perdus avec les accents québécois, mais c'est devenu comme un espèce de running gag à travers la projection. Donc la citation dans la salle, c'était « On veut des sous-titres français !» Donc ça a été quand même cool. Puis tu sais, le projet, ça fait un bout qui est sorti, donc pour moi, je vois beaucoup de fautes. Il y a des bouts où ça me fait grincer un peu des dents là, certaines scènes, mais au pif, c'était comme correct parce que les gens, ils réagissent à ces fautes-là, puis ils rendent ça plaisant, en fait, puis c'est pas malaisant, en fait, ça devenait vraiment le fun, la connexion avec le public. Puis juste la présentation du film, en fait, il m'avait avisé, il faut qu'on chante une chanson sur la scène. Ça, c'est le public qui, tous en cœur, qui fait « Une chanson! » Puis vraiment, ils te coupent pendant que tu présentes ton film. Puis si tu sors de la scène sans chanter de chanson, ils te huent. Puis ta projection part très mal. Donc, peu importe ton statut de réalisateur, que ça soit ton premier long ou que ça soit ton 16e long, t'es obligé de chanter une chanson sur la scène. Moi, j'ai fait honte au Québec. J'ai chanté « La petite grenouille » d'André Guitard, qui est une toune grivoise, pour ceux qui connaissent pas, qui est l'affaire la plus trash que je connais. Ils m'ont dit que ça marcherait avec le public du BIFF, et ça a fonctionné, même s'ils ont pas compris probablement le trois quarts des expressions sales québécoises que j'ai dit dans la chanson.
Fait que t'as contribué au cliché québécois à l'Europe, là, en Europe. C'est bon.
Exactement. C'est ce qu'ils m'ont demandé. Je représentais le Québec. Il y avait moi, en fait, il y avait la gang de Roadkill Superstar qui présentait Turbo Kid, que j'ai manqué.
Mais là, t'as peu, dis-moi que t'as eu une façon de le voir, de trouver un screener ou quelque chose. T'as pas vu?
J'ai pas pu parce que, non, c'est ça, le distributeur, il a limité les screeners de Turbo Kid. Donc, j'ai vu quelques films, en fait, que j'avais manqué au début du festival dans la salle de presse, mais j'ai manqué Turbo Kid. Donc, ça va sûrement être un « See you soon » à Fantasia. Mais c'est ça, en gros, c'est le bif, c'est ça. Puis ce qui est vraiment le fun aussi, ce qui est peut-être le petit plus que Fantasia a pas, tu sais, Fantasia, je suis en amour avec le festival, là, on s'entend que... mais je pense qu'il manque à Fantasia, c'est une zone commune où les gens se rencontrent entre les films. Donc, il y a les deux salles de cinéma du bif, mais en plein centre, une zone où il y a genre du body painting tout le temps. Il y a toujours du monde qui font des démonstrations de body painting. Il y a un concours de maquillage. Il y a les stands à bière, obviously, où il y a beaucoup trop de bière. La bière est aussi chère que l'eau, en passant. Donc, tu finis toujours par prendre une bière au lieu d'un verre d'eau. Là. J'étais déshydraté à la fin de toutes mes journées. Puis, j'ai rencontré Joe Dante, le réalisateur de Gremlins.
Ben ça, oui. C'était un Gremlins étant une de tes inspirations principales pour la série.
C'était la référence principale, en fait, pour les jaunes. Puis, les acteurs, je leur disais de regarder Gremlins pour comprendre le ton que je voulais donner au personnage. L'espèce de ton entre le réalisme, mais aussi le théâtre, le petit ton théâtral très Spielberg des années 80. Puis Joe Dante était sur place. C'est une espèce de coïncidence qui se peut pas, là. Donc j'ai pu jaser comme 5-10 minutes environ avant qu'il aille voir un film. Je l'ai accroché au passage, puis j'ai dit « Thank you for everything ». J'ai presque pleuré. Puis,
Et lui, il était là pour une version restaurée d'un de ses films?
Non, il venait présenter un nouveau long-métrage, en fait, qui a fait que j'ai manqué aussi, qui était présenté au tout début. C'était le film d'ouverture. Ça s'appelait « Burying the X », un truc comme ça. C'est ça, mais bon, il s'est fait accrocher par tout le monde pour jaser de Gremlins, puis Inner Space, puis ses vieux classiques, là. Puis j'ai dit, je suis tellement... ça a tellement été une inspiration, Gremlins fait « Yeah, yeah, that film ». Tu sais, il est comme... il se fait juste parler de ça, là. Ça a été fait en 84,
ouais, puis... Ouais, le gars, il a envie de se faire reconnaître pour autre chose, là.
Ben, Rémi, c'est comme toi, quand tu recevras ta louve d'honneur au FNC en 2042, puis qu'on va encore te parler des jaunes, puis ça fait...
Yeah, je vais comme « Yeah, yeah, that film », en anglais, ouais. Parce que je vais être rendu là, tu sais.
Ouais, c'est
ça. Je vais
être
rendu trop
bon, bichu. Rémi Fréchette, je te pose une question, Pascal Plante, top 5 du bif.
Hey, top 5, ben là j'en avais highlighté quelques-uns, je vais essayer d'en dire en rafale, là, vous en nommer quelques-uns qui m'ont vraiment marqué. D'abord The Infinite Man que j'ai vu, qui avait gagné un prix à Fantasia l'année dernière, qui a encore pas gagné un prix au BIF. Un huis clos avec trois personnages dans un setup, donc c'est un motel abandonné. C'est l'histoire d'un homme qui veut commémorer la première année d'anniversaire avec sa copine. Puis il la ramène exactement à la même place où ils se sont rencontrés, donc dans un motel où il y avait comme une fête là-bas. Mais le motel, l'année d'après, est abandonné complètement. Puis ses plans, en fait, il s'est fait une liste avec tous les trucs qu'il fallait qu'il refasse dans cette date-là, très cartésien, là. Il peut pas les faire parce que le motel est plus en fonction, mais il essaie de tout arranger et de faire ça quand même. Mais ça vire très mal et sa blonde finit par quitter la place. Donc il passe une année à construire une machine à voyager dans le temps pour revenir dans le passé puis essayer de rattraper cette date-là. Donc c'est un film de loop temporel qu'on a vu beaucoup, beaucoup de fois, mais le film est tellement bien écrit que ça a été facilement un...
C'est quoi le ton?
Ça a été facilement un coup de cœur. C'est un peu à la Eternal Sunshine, en fait.
Ah, okay.
Il utilise le device science-fiction pour raconter une histoire d'amour, puis c'est justement vraiment bien maîtriser la balance entre les deux. Je crois que ça a été fait, je me trompe peut-être, ça a été fait dans le contexte du projet Frontières, donc que TurboKid a été fait aussi, donc qui fait le pont entre plusieurs pays pour du financement de longs métrages. Puis le scénario a été travaillé et retravaillé pendant quelques années avant qu'il tourne, mais c'est ultra, ultra low budget, donc quand tu sors du film, en tant que filmmaker, t'as cette inspiration-là qui embarque, puis de faire comme c'est, tu sais, avec un bon scénario, puis des bons acteurs, tu peux juste faire un très bon film, là. C'est ça, trois acteurs, un lieu, puis ils ont réussi à raconter une histoire qui est enlevante. Ça a été un des films qui m'a beaucoup marqué. J'ai vu un autre huis clos. Il y a eu beaucoup de huis clos, en fait, que j'ai vu. C'était vraiment le hasard.
Tout des cinéastes fauchés.
Oui, c'est ça, exactement. Mais l'autre huis clos que j'ai vu, ça s'appelle False. Puis c'est produit par Mary Elizabeth Winstead, qui joue dans Scott Pilgrim, entre autres, et fait Ramona.
Ouais.
Puis c'est l'histoire d'un auteur, en fait, qui écrit des livres sur les sectes. Puis là, il a écrit son deuxième livre, qui est un échec commercial complet. Puis là, on voit, en fait, le film commence, il essaie de faire une conférence dans un hôtel, puis il essaie de gratter des sous avec chaque livre qu'il distribue, puis il essaie de... La scène d'ouverture, en fait, il est dans le restaurant de l'hôtel, puis il essaie de refaire passer un bon pour un repas gratuit, mais il essaie de le refaire passer une deuxième fois à l'hôtel pour pouvoir manger gratuitement encore parce qu'il est complètement fauché. Puis la scène ouvre, c'est vraiment un seul plan, en fait, de lui qui est assis, puis le serveur qui dit de sortir du restaurant, mais il se gave de ketchup, il essaie de manger tout ce qu'il peut pour... là, il y a une famille qui vont le voir, puis ils disent, notre fille est prise dans une secte, puis on aurait besoin de vous pour la sortir de là.
Pourquoi lui?
Parce qu'il a eu un succès avec son premier livre, puis son premier livre, en fait, traitait du fait de sortir des gens d'une secte, puis il y a eu une catastrophe aussi, il a sorti une fille d'une secte, mais elle s'est suicidée peu après, donc il y a eu comme toute cette histoire-là qui a entaché sa réputation, mais cette famille-là vont le voir pour l'aider, pour avoir de l'aide, en fait. Puis, donc, il kidnappe la fille complètement illégalement. Puis, il l'amène dans une chambre d'hôtel puis il essaie de la convaincre qu'elle devrait sortir de la secte puis c'est mieux pour elle, pour sa famille. Donc, c'est un autre huis clos dans un hôtel. Donc, je sais pas s'il y a une thématique au bif là-dessus, là, mais puis il y a comme un ton comique dans le film, mais tout au long du film, la relation entre les deux se désagrège puis ça devient de plus en plus dramatique jusqu'à ce qu'il y ait plusieurs twists, en fait, des disparitions de la fille dans la chambre qui est pourtant enfermée dans la place. Elle parle qu'elle a un contact avec Dieu, donc est-ce qu'il y a quelque chose de paranormal là-dedans? Donc ça, c'est un autre film que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. Puis un autre que je voulais parler, en fait, puis je vous l'avais dit quand j'avais vu ça passer, ça, j'avais tellement envie de le voir, c'est le titre complet, c'est Lost Souls, The Doomed Journey of Richard Stanley's Island of Dr. Moreau.
Oui!
Oh
oui.
Man! Ça a l'air tellement bon, celui-là, là!
Et Richard Stanley était présent, donc le mec qui avait réalisé originalement l'île du Dr. Moreau était là sur place.
Il s'est retiré, lui. Il a été kick-out de la salle de montage, puis...
Il a été kick-out du tournage, en fait.
Ouais, du tournage.
Genre, en plein milieu du tournage. Ouais. Qui a été remplacé par John Frankenheimer, qui avait réalisé Ronin, The Manchurian Candidate, l'original, The Reindeer Games. Ouais. Donc, un réalisateur très sérieux qui devrait pas faire un film de genre comme ça, puis un concept aussi éclaté que ce que Richard Stanley voulait faire. Richard Stanley a travaillé pendant des années sur le concept de l'île du Dr. Moreau. Il voulait une adaptation fidèle au livre, mais qui était, pour vrai, il montre les croquis, puis ça a l'air un peu du documentaire sur Dune, en fait, Jodorowsky Dune, parce que tu vois les concepts originaux, puis le film aurait été... Tu sais, il donne le goût de voir le film qui était là à l'origine, mais
il a casté Marlon Brando.
Mais les studios ont casté Marlon Brando.
Ben, puis Val Kilmer, supposément que Val Kilmer, il a été vraiment à Soul aussi.
Hein. Les deux ont été à Soul, puis c'est les studios qui ont obligé ce casting-là, puis Richard Stanley est obligé d'aller avec ça, son casting original, je me souviens pas exactement c'était qui, mais il y avait vraiment des idées précises pour les personnages, pour les make-up, pour le côté trash de la chose, parce que Stanley, en fait... Il a fait des films indépendants, avant des films d'horreur indépendants, il a fait Hardware, il a fait Dust Devil, c'était des films à petit budget où il y avait tout le contrôle créatif. Puis c'est comme ça qu'il s'est fait remarquer. Mais Richard Stanley, c'est un personnage vraiment étrange aussi. Je l'ai croisé au bif, il se promène dans un long côte noir avec un chapeau d'aventurier avec une plume. Il est tout le temps habillé comme un peu extravagant, puis il est un peu weird. Je suis allé parler pour lui dire que j'avais vraiment apprécié sa vision, justement la vision qu'il proposait dans son film. Puis, c'est très dommage, en fait, ce qui s'est passé, mais faut le voir pour le croire, en fait, le documentaire, là, c'est vraiment dans la veine de Dune ou dans la veine de... On voit des scènes sur le plateau, donc je peux dire même que c'est un peu dans la veine de Lost in La Mancha, mais c'est une catastrophe totale. Le budget partait à 10 millions, puis quand Marlon Brando est arrivé, le budget a été craqué à 36 millions, une affaire comme ça.
Qui, à l'époque, était une très grosse somme, là.
Ben exactement, puis il était là pour faire chier le tournage Marlon Brando. Par exemple, dans les exemples complètement absurdes, il y a une scène où il a dit...
Sur la tête.
Exactement, dans cette scène-là, je vais avoir un saut de glace en métal sur la tête. Puis ben c'est Marlon Brando, donc on dit oui. Donc il y a une scène complète dans le film, pour aucune raison, il y a un bucket de glace sur la tête. Puis il y a une fille qui remplit le bucket en plus. Puis l'actrice qui jouait beaucoup, qui faisait l'assistante, en fait, de Marlon Brando dans le film, une des assistantes, était une super bonne amie à Richard Stanley, puis était liée par contrat au film, donc elle pouvait pas s'en aller. Donc elle a été obligée de vivre ça, puis a été interviewée dans le film pour dire justement son expérience sur le plateau après le départ de Richard Stanley. Mais il y a plein de twists, là, c'est vraiment malade, c'est vraiment une belle histoire qui a été racontée. C'était un beau coup de cœur, puis j'aime ça, l'histoire de shoot catastrophique, c'est toujours le fun.
Ouais,
quand le film est mauvais, au moins t'as une belle histoire à raconter après ça, sur comment ça que c'est devenu aussi mauvais, tu sais.
Ou plutôt une mauvaise histoire à raconter.
Donc, ouais, exact, mais c'est tellement le fun à écouter.
Puis la bande-annonce semblait dire que Richard Stanley, c'est un peu comme exilé, puis il savait comme plus trop qu'est-ce qu'il faisait, puis où est-ce qu'il allait, puis il y avait pas un peu de la sorcellerie, là.
Ouais, ben il y avait
plein de légendes. Je spoil le film, mais en même temps, c'est dans la bande-annonce.
annonce. Fait.
Ouais, ben en fait, c'est que quand il s'est fait kick-out, ils ont donné un billet d'avion pour qu'il parte, puis il a jamais été sur l'avion. Donc, il a juste disparu dans la forêt. Oh, puis, ouais. Il y a comme des revirements de situation là-dessus. Là, genre, c'est vraiment, vraiment fucké ce qui s'est passé.
D'ailleurs, est-ce que vous savez, dans ce style de documentaire-là sur des projets maudits, là, quel film j'aimerais voir, qu'on verra sûrement jamais le jour parce qu'il n'y a pas eu assez de trucs filmés. Là.
Le film mais de Jerry Lewis.
Non, ben oui, ça aussi. Oh, mais ouais. Non, le making-of de Hung Back 2 et 3.
Oh,
parce
ouais.
que, je sais pas si vous êtes au courant de toute cette saga-là, mais il y a encore des retombées aujourd'hui. Parce que, bon, Tony Jaa, après le premier Hung Back, devient une méga star du petit marché de la Thaïlande. Et dans le fond, il est lié par contrat au gros studio là-bas. Et vraiment, c'est qu'il peut juste faire des films avec eux.
Mm-hmm.
Donc, tu sais, vraiment, il appartient à la compagnie.
C'est comme dans le temps du Hollywood classique, là, où il y avait leur vedette par chaque major, ils avaient comme ouais. ses vedettes un peu. Là, ouais.
C'est ça, puis c'est super contrôlant, supposément. Et pour le tournage Hung Back 2, en fait, c'est que le budget a été hors de contrôle. Tony Jaa, tu sais, il était producteur, scénariste, acteur, chorégraphe, etc. Donc, vraiment, il voulait faire un film relativement personnel. Et il y a eu des problèmes avec les financiers. Et puis là-bas, ça a l'air qu'il y a aussi beaucoup de liens avec le monde un peu de la pègre qui contrôle un peu l'industrie du cinéma.
Ouais, corruption à côté. Là.
Ouais. Donc éventuellement, il a juste disparu du set, puis il est allé vivre en forêt pendant des mois. Et genre les rumeurs les plus folles accouraient comme le monde. Vraiment, vous irez voir ça. Il y a eu plein de reportages à l'époque comme « Où est Tony Jaa? » Puis « Qu'est-ce qui se passe? » Il y avait des rumeurs qui pensaient qu'il s'était rasé les cheveux puis qu'il était devenu moine. Finalement, il retentit. Et, genre 6 mois plus tard, avec des nouvelles promesses de financement pour compléter le film, et ils ont décidé donc de séparer le deuxième film en deux pour faire une trilogie et pour essayer de rembourser un peu les coûts. Là, on arrive, bon, 10 ans plus tard, c'est un peu un échec critique, mais ça a fait quand même assez d'argent pour comme retourner dans ses frais. Et puis là, il est encore sous contrat, mais il a brisé son contrat pour jouer dans, je ne me rappelle plus quel film de Hong Kong, parce que c'est une coproduction d'Hong Kong et non une production de Thaïlande. Et là, Furious 7, il y a un petit caméo là-dedans, ça a également brisé son contrat. Le film était censé être boycotté en Thaïlande par le distributeur, la compagnie qui a supposément un contrat avec lui, mais lui, il veut se buzzer de tout ça. Oh. Là, il fait un nouveau film avec Donnie Yen à Hong Kong. C'est vraiment, là, il y aurait vraiment un documentaire incroyable à faire sur ce tournage-là.
Oh, ouais, la carrière. Mais, mais ça, tu me l'apprends pour de vrai. Moi, ouais, n'ayant pas vu Hung Back 2 et 3...
J'ai même pas vu le premier, en fait.
Ouais, ben, c'est pas des grands films, mais je pense que Tony Jaa, c'est un artiste incroyable, là, vraiment.
Oh, il rehausse.
Un athlète, là.
C'est ça. C'est l'attrait du film vient beaucoup des prouesses physiques. Parce que le film, finalement, même Hung Back, il a une grande réputation, mais la réputation, c'est ça, elle tient sur les épaules des prouesses là, de Tony Jaa, parce que le film est vraiment pas un grand film.
J'ai quand même une grande faiblesse pour le deuxième Hung Back, je trouve. C'est intéressant. Puis ça n'a rien à voir. Hein, c'est une suite que dans le nom, là, parce qu'on est comme 500 ans plus tôt, puis c'est comme toute une autre histoire qu'aucun lien. Là. Mais tout ça pour dire que, ouais, Tony Jaa, je pense que si c'était pas de tous ces problèmes-là qui financiers, je pense qu'il aurait eu une belle carrière devant lui parce qu'il a pas fait beaucoup de films par année, tu sais. Alors que c'était vraiment ses plus belles années, tu sais. Il était vraiment en pleine forme. Là, il commence déjà à se faire un petit peu vieux pour le style de cinéma qu'il fait, tu sais. C'est dur de continuer vraiment au-delà de la quarantaine avancée, là. Donc bref, tout ça pour dire qu'il y aurait un bon documentaire à faire là-dessus. Quoi d'autre, Rémi, qu'il y avait au BIF, c'est intéressant?
J'ai vu un film coréen, parce que les films coréens, c'est toujours vraiment bon.
Puis, comme Oldboy, mettons, là?
Mais ça sent bien. C'est un running gag en passant, pour ceux qui savent pas, mais j'ai pas vu la trilogie de la vengeance.
Hey, t'as pas vu la trilogie de la vengeance?
Ouais, je sais.
T'as pas vu ça?
Ça a pas d'allure. J'ai une copie sur mon ordi, j'ai une copie. Je peux l'écouter sur Netflix, j'ai comme aucune excuse de
pas l'écouter. Je peux prêter DVD, si tu veux.
Ça a pas d'allure. Un jour, ça va arriver. Mais je suis allé voir un film coréen qui s'appelle The Target, je sais pas c'est quoi en coréen, mais The Target en anglais, qui est un remake d'un film français qui s'appelle À bout portant, qui avait été fait en 2010, par Fred Cavaillé. Donc The Target est réalisé par Chang, c'est simplement Chang. Puis c'est comme l'histoire la plus classique au monde c'est un médecin en fait qui se fait prendre sa femme se fait prendre en otage pour qu'il puisse cacher un témoin qui est à l'hôpital. Témoin d'un meurtre, puis finalement tu te rends compte qu'il y a toute une grosse histoire de police corrompue autour de ça. Je pense que c'est le scénario le plus convenu de film policier, mais oh gosh que c'est le fun, un film coréen. Les scènes d'action, ils rentrent juste au bon moment. C'est bien tourné, c'est super bien réalisé. Je sais pas quoi dire de plus sur le film, là, mais je pense que si vous voulez juste un bon action piece de Target, ça va sûrement être à Fantasia cette année, ou je l'ai peut-être manqué l'année passée.
C'est soit l'autre.
Oui, c'est ça, je me rends compte. Ouais, c'est, ben, c'est sûr, les festivals, ils se partagent les longs métrages. Là.
Surtout des festivals à vocation un peu d'aller dans le fantastique. C'est bizarre,
ouais.
Mais en tout cas, ça a été vraiment un beau coup de cœur. Puis c'est drôle parce que les films coréens comme ça, les trucs de petits policiers, je vais tout le temps un peu à reculons en me disant « Ouais, tu sais, ça va être pareil comme les autres, mais à chaque fois, je trippe ma vie, puis je sors de là, puis je suis tout primé parce que il y a une énergie, une espèce de fougue dans ces films-là, puis tu sais ça, les scènes de combat, les ils lésinent pas, disons, pour y aller vraiment en trash, puis...
Ah, si seulement j'avais une trilogie à te proposer!
Le pire, c'est que c'est sûr que c'est dans une esthétique connexe. Là, je pourrais vous dire ça comme référence, puis mais non, je pourrais pas vous le dire parce que je les ai pas vus. le dernier que je vous propose dans mon top 5, ça s'appelle Shrew's Nest. C'est
comment?
Shrew's Nest. Donc, c'est un film espagnol réalisé par, je vais essayer, Juan Fer Andrés et Esteban Roel, qui est un genre de misery espagnol. C'est une... C'est une fille qui veut pas sortir de chez elle. Elle a vraiment une phobie où elle reste enfermée. Problème familial du passé oblige. Puis un homme qui descend les escaliers dans son bloc appartement et qui se pète la gueule solidement et se brise la jambe devant sa porte d'entrée. Donc elle réussit à ouvrir la porte et à le traîner à l'intérieur. Et elle décide de s'en occuper juste pour elle. Un autre huis clos en passant. Un autre huis clos, mais dans un appartement.
Mais c'est une bonne prémisse.
Elle décide de s'en occuper, en fait, puis elle tombe comme en amour avec lui. Puis, il y a sa sœur, en fait, qui, elle, sort à l'extérieur, qui a un contact avec le monde extérieur, qui finit par voir qu'il y a un gars qui dort chez elle, qui est en réhabilitation. Mais le gars, au début, il veut pas trop sortir, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe dans sa vie aussi qui faisait qu'il essayait de fuir en vitesse le bloc appartement. Donc il tient en fait la fille le tient en captivité pendant qu'il y a une autre histoire d'amour qui se développe entre sa sœur et l'homme. Donc on sent des tensions familiales qui se développent là-dedans et aussi le gars qui commence à pas vouloir rester finalement.
Mais il y a vraiment tu parlais du cinéma coréen un peu comme gage de qualité un peu, mais tu sais le cinéma d'horreur puis l'Espagne c'est vraiment une histoire d'amour aussi là qui tu sais mettons depuis le début des années 2000 là me semble que tu sais de façon constante et consistante les films d'horreur les plus intéressants des dernières années proviennent d'Espagne ou proviennent de créateurs espagnols aussi donc c'est pas surprenant en fait qu'il y en ait d'un au bif puis qu'il y en ait des intéressants aussi au bif là.
C'est une nouvelle voie en fait là. C'est vraiment intéressant pour le cinéma d'horreur en fait de sortir du modèle américain puis d'aller chercher d'autres pays en fait qui ont quelque chose à dire à travers leur cinéma là.
Et aussi à travers leur folklore.
Ouais, exactement. Puis ça en fait c'est le Shrew's Nest qui est vraiment le fun, c'est que ça part très soft en fait, vraiment plus comme un film dramatique avec une petite touche d'humour dans les dialogues, de la façon que les personnages interagissent entre eux. Mais plus ça va, plus ça vire trash et il y a quelques meurtres qui finissent par arriver, mais assez gore puis assez gore justement dans un film où tu vois pas de gore au début là. Je pense à Misery justement, je fais le parallèle, ben t'as pas de gore puis à un moment donné t'as la scène des pieds puis t'as un mec qui se fait shotter au shotgun en plein dans le ventre défonce, tu sais c'est des moments gore qui sont bien timés dans le film puis qui fonctionnent très bien en fait parce que l'élément choc arrive un peu de nulle part. Donc ça serait mon top 5. Puis pour vrai comme mon expérience c'est des jaunes, je vais pas revenir sur mon film là, mais Chris que c'était le fun de présenter ça au bif là. Le public était incroyable.
Super, on devrait Fantasia devrait t'engager pour faire un guide audio, tu sais pour les gens qui essaient de choisir un film, tu sais.
Welcome to Fantasia.
On lance dans l'air comme ça. Qu'est-ce qui est sûr c'est que dans deux semaines déjà le nouveau festival de Cannes, ça passe vite, hein. On est déjà presque, tu sais, Cannes pour moi ça sépare quand même l'année en deux parce que t'as le premier début, tu sais, mettons
t'as les Oscars puis t'as Cannes, c'est ça.
Ben c'est ça, janvier à mai c'est assez tranquille, mettons on rattrape beaucoup de films de l'an passé, il y a quand même très peu de sorties, et puis là t'as mai qui, tu sais, que c'est Cannes, tous les projecteurs du monde sont braqués sur ce festival et tous les grands films prennent l'affiche ou du moins potentiels grands films. Juste pour le fun comme ça, on reviendra pas sur la sélection parce que tout le monde en a déjà parlé et puis on est déjà un peu en retard là-dessus.
Ben, je suis tellement déconnecté, moi j'ai même pas regardé en fait. Je suis encore en décalage horaire, je gâche, fait que j'ai comme. Je sais même pas ce qui va passer à Cannes cette année.
Hey, il y a du bon sens.
Hey. Ben, j'ai vu par exemple, vous avez partagé quelques articles, fait que j'ai vu quelques highlights, mais.
Je te partage un lien, Rémi. Parce que rapidement, j'ai une question pour vous deux. Donc, dans ce très, très scientifique exercice mental, pour vous, quelle sera la prochaine Palme d'Or?
T'as peur. Mais tu peux pas juste me lancer ça de façon casual, parce que, est-ce que je peux me péter les bretelles? Je l'ai quand même deviné les trois dernières années, puis du ruban blanc. Fait que, sérieux, là, genre, je suis vraiment...
C'est un sorcier!
Non, c'est pas vrai. Oui, les trois, oui. Non, en fait...
Donc, les trois dernières, on parle de Winter Sleeps, La Vie d'Adèle et Amour.
Ouais, c'est ça, exactement. Puis je l'avais deviné en 2009 aussi pour le ruban blanc. Fait que, pression. Tree of Life, c'est tout le temps un peu dans l'air, là, mais c'était pas ma. Mais bon, bref, je savais que ça allait gagner un prix. Tout ça pour dire que, je me pète les
bretelles. Donc, est-ce que tu vas le faire une quatrième en ligne?
Et ce serait fou. Je vais miser. Mon Dieu, hey, c'est tellement random.
C'est ça, on connaît... Bon, il y a quelques films déjà qu'on a vu des bandes-annonces. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu encore, allez voir la bande-annonce du Sorrentino Youth.
Oui.
La bande-annonce de... Matteo Garrone. Le Conte des Contes de Matteo Garrone.
D'ailleurs, cinéma italien...
très fort cette année.
Très fort cette année, mais très fort point aussi depuis quelques années. Tu sais, il y a eu vraiment un creux. Puis là, je pense que, tu sais, mené de front par, justement, Matteo Garrone, Sorrentino. Mais tu sais, il y en a d'autres. Il y a vraiment beaucoup. Puis Nanni Moretti, là, il avait gagné la Palme d'Or en 2001 avec La Chambre du Fils. Il avait fait Caro Diarro dans les années 90. Habemus Papam, qui avait quand même divisé étrangement. Moi, j'ai trouvé que c'était un film génial. Mais tout ça pour dire que Nanni Moretti... bon, c'est un peu une comparaison qu'on fait à outrance, mais tu sais, un genre de Woody Allen, c'est un peu un genre de Woody Allen italien. Bon, évidemment, c'est pas le même ton, c'est pas pareil, puis on pourrait jamais remplacer les lunettes de Woody, mais il y a quelque chose dans son espèce de vibe d'auteur aussi, de cinéma, de drame de mœurs à saveur comique aussi, dans lequel il joue toujours un personnage, écrit, réalise, produit, bon, bref... Donc, cinéma italien, encore une fois, très représenté. Fait que je pense qu'il y a quelque chose qui se passe. Puis ça fait du bien parce que, tu sais, on est loin là, des années 60 où t'avais justement là, les Fellini, Antonioni, puis tous les gens. Tu sais, c'était le cinéma, en fait, qui était sur la carte. Ou pendant le néo-réalisme, tu sais, De Sica, Rossellini, tout ça. Bon, bref. Donc, il y a quelque chose de beau qui se passe. Donc, ça, c'est une side note. Ma Palme d'Or sera Dipan de Jacques Audiard. Voilà, c'est dit.
Jacques Audiard.
Ouais, moi je pense que c'est Audiard. Le cinéma français n'a pas eu beaucoup de palmes d'or, n'a pas donné beaucoup de palmes d'or. Entre les murs était la première depuis Sous le soleil de Satan. Si je me trompe pas, Sous le soleil de Satan, c'était Pialop, c'était en 87. Hey, c'est autiste en maudit, mais je pense que c'est ça, les statistiques de mémoire. Mais non, je pense que Jacques Audiard... de façon très constante aussi, film après film, un peu la même logique que j'ai. Je trouve que Cannes a vraiment une historique de récompenser la carrière beaucoup. Il l'a fait un peu, tu sais, récompenser les premiers cinéastes avec, Jim Jarmusch, avec Stranger in Paradise.
Soderbergh.
Ouais, Soderbergh avec Sex, Lies and Videotape. Bon, Pulp Fiction, c'était un deuxième film, mais tu sais, c'était quand même un peu... il l'a fait beaucoup avec des cinéastes américains, là, je gage, parce qu'on vient de nommer quand même trois cinéastes américains, mais...
Les frères d'Ardenne aussi.
Les frères d'Ardenne, dans le temps de Rosetta, ouais, il avait juste fait La Promesse. Je pense qu'il en a fait un autre avant, là. La Promesse, c'est pas le premier des d'Ardenne. Mais bon, bref, mais c'est quand même un peu des exceptions ponctuelles. En général, Cannes a vraiment une historique de récompenser des œuvres, des cinéastes qui ont déjà gagné des prix ailleurs, tu sais. Fait que si t'as eu dans ta poche le scénario, la mise en scène, comme finalement Ceylan, hein? Ceylan avait gagné virtuellement tous les autres prix, puis finalement la Palme d'Or avec un film assez important. Donc moi, je suis un peu cette logique-là. Je pense que Jacques Audiard... Quoique le Jasanke aussi, hein. Jasanke, il gagne des prix tout le temps partout. Parce que ce serait un peu mon plan B, Mountains May Depart de Jasanke, de Chine. Mais Jacques Audiard, ce sera mon choix. Très, très, très aléatoire, mais quand même.
Bon, mais Pascal, tu m'as un peu brûlé la mèche. Moi, j'allais cette année parier sur Giazenki.
Ah ouais, malheureusement, Mad Max est hors compétition, donc tu ne pourras pas mettre la palme d'or sur ce livre-là.
Ah, mais ça, c'est déjà la palme d'or de mon cœur. Mais...
On mettra ça sur le DVD, la palme d'or de mon cœur.
Ouais, c'est parfait, ouais. Non, mais peut-être que le film va me décevoir. Hein. Si le film me déçoit, je vais en parler dans ma critique. Mais non, tout ça pour revenir à Giazenki qui représente quasiment un mouvement à lui tout seul en Chine,
ouais,
qui a vraiment fait des très gros films, Platform, The World, Unknown Pleasures, récemment A Touch of Sin, que j'ai toujours pas vu d'ailleurs. Son nouveau, donc Mountains
May Depart. Pas son meilleur, mais il était fort. Mais c'est dur de topper, c'était Life puis Platform, surtout Platform.
Mm-hmm.
Bon, on parle d'un grand, grand, grand film ici. Là. On parle d'un cinéaste qui est capable, tu sais, qui est capable d'être dans les territoires des grands films, des grands auteurs.
Je trouve très intéressant sa manière aussi de un peu jouer à la frontière entre le documentaire et la fiction. Et d'ailleurs, il n'hésite pas à plonger d'un pan à l'autre.
Ouais, puis dérouté une fois de temps en temps par soit une séquence musicale, une séquence d'action ou des séquences fantastiques. T'sais, dans Still Life, on pense vraiment à m'amener la maison qui s'envole ou des choses comme ça. Il y a comme une dose d'onirisme, de fantaisie qui va arriver un peu comme une grande surprise, un peu comme une claque au visage, mais qui finalement, finalement donne une poésie cinématographique au film, tu sais, que des fois un documentaire justement ne peut pas vraiment faire. Encore là, c'est avec des guillemets là, que je dis ça, là, tu sais, je veux dire, documentaire peut aller partout aussi, mais Giazenki, justement, de son background de documentariste, puis de sa conscience très sociale, puis en même temps de sa touche un peu poétique, finalement, a tout pour faire des grandes œuvres. Donc, je t'appuie aussi. C'est un des gros noms, je pense, cette année.
Ouais. Et mon plan B, ça sera Sorrentino avec Youth, la balance
qui n'avait rien gagné. Il n'avait rien gagné avec la grande Debellezza. Hein. Ça, c'est très surprenant.
Mmh. Ben, des fois, c'est juste la qualité de la sélection qui fait qu'on ne peut pas donner les prix à tout le monde.
C'est sûr. Mais moi, je pense que Cannes va peut-être le récompenser, mais avec un prix, tu sais, peut-être la mise en scène. Moi, Palme d'Or, j'y crois moins, mais j'aimerais beaucoup, sachant que la grande Bellezza avait été pour moi un absolu coup de cœur.
C'était incroyable, ce film.
Incroyable. Donc, puis une bande-annonce assez prometteur. Hein. On a vu beaucoup de bandes-annonces hein, de plusieurs films à droite à gauche, mais... est-ce que j'ai coupé ton air, Paul, par exemple? Toi, Youth, ouais?
Ah, ben non, ben comme tu disais, là, la bande-annonce, c'est très, très accrocheur. Le thème aussi, à propos de la musique, on n'en sait pas beaucoup non plus, parce que c'est assez succinct comme bande-annonce, mais d'un point de vue plastique, là, composition, c'est vraiment superbe.
Puis il semble encore beaucoup parler de l'héritage de Rome, de l'Italie en déclin, de l'Europe en déclin, hein, par extension. Puis ça, c'est pas des sujets qui sont prêts de s'estomper, c'est des sujets
auxquels on revient. Mais une palme d'or, on donne ça à un film ambitieux. Je sais pas si vous êtes du même avis, mais il me semble que film après film, les palmes d'or, c'est toujours des films ambitieux. Tu vois pas vraiment souvent voir le petit drame intimiste. Il y en a, mais...
Amour, entre les murs, il y en a eu. Rosetta, quand les Dardenne gagnent. Mais disons que récemment, effectivement, on récompense quoi? Tree of Life, on récompense Winter Sleep. C'est vrai que c'est des points d'exclamation en maudit. Mais peut-être qu'ils vont être contre-tendance cette année. Quoi qu'avec Xavier Dolan sur le jury, lui, il risque de miser sur justement les films peut-être plus grandiloquents. Hein? Donc peut-être que Sorrentino, ça va lui parler. Quoi que c'est pas... puis c'est les Coen, hein, les frères Coen. Parce que aussi, là, ce qu'il faut dire, c'est que pour me défendre, là, c'est pas si random que ça, en fait, quand que je dis mes espèces de sélections comme ça, parce que j'essaie aussi de me fier un peu. Tu sais, quand c'est Spielberg, le chef du jury, ça peut un petit peu peut-être t'aider à penser que peut-être il y a ci puis il y a ça qui ont des plus de chances. Bon, vous savez ce que je veux dire, c'est que c'est correct de penser un peu comme un peu à l'image. Veux pas, c'est un jury, donc le film qui est sélectionné est un peu le miroir du jury. Et avec les frères Coen, qui sont très maniérés dans leur cinéma, Xavier Dolan, puis il y en a d'autres, là, tu sais... il y a des acteurs beaucoup, Jake Gyllenhaal, il y a Sophie Marceau, il y en a plein, mais pour quelconque raison, moi je pense aussi tu sais, Xavier Dolan, peut-être le film de Todd Haynes va pouvoir lui parler. Je sais pas à quel point les Coen, ça va leur parler. Mais moi, je pense que Odiar, pourquoi que je parle de tout ça? C'est parce qu'Odiar, il y a tout. Odiar, je pense qu'il plaît vraiment à un cinéma plus social. Il plaît aux acteurs. C'est un grand cinéaste d'acteurs. Mais aussi, c'est un grand cinéaste qui est capable d'avoir beaucoup de mise en scène, de cinéma. Il y a des moments de cinéma dans son œuvre. Donc, voilà un peu ma réflexion. T'sais. Puis, il n'a pas peur aussi de tomber un peu dans le genre, Jacques Audiard. T'sais, comme dans le dernier, il y avait des scènes de batte. C'était des gangs de rue. T'sais, pas des gangs de rue, mais voyons, des combats de rue, finalement, t'sais, en slow motion, super esthétisé. T'sais, avant ça, je veux dire, il fait un film de prison. Je sais pas, je pense que... Avec tous les paramètres que j'ai en main, moi, je reviens encore sur celui-là.
Mais Xavier Dolan va peut-être être déconcentré par Jake Gyllenhaal. Il l'a dit en entrevue. Donc, peut-être que son opinion va changer à travers ça.
Ça y est, voilà.
Et toi, Rémi?
Ben, moi, j'ai ri. J'ai vu aucune bande-annonce. Je regarde la liste, puis go, Denis Villeneuve, go, Québec! Non, je sais pas quoi dire pour vrai. Je regarde la liste, il va falloir que je me tape les bandes annonces pour me faire une opinion, mais...
Denis Villeneuve, d'ailleurs, il a pas peur hein, de se mettre vraiment dans l'arène de la meilleure façon possible, finalement, hein, en confiance. Il a dit en entrevue à maintes reprises qu'il dit « Sicario, ce serait son meilleur film ». Puis, tu sais, venant de quelqu'un qui a quand même une filmographie assez étoffée, là. Tu sais, je veux dire, on parle quand même de quelqu'un qui a été... Bon, pas que ce soit juste le seul seal of approval, comme on dit en anglais, mais tu sais, le gars, il était avec Incendie, c'était aux Oscars, il a fait quand même des films vraiment, vraiment
très bon importants, film américain, ambitieux. En fait, puis, c'est vraiment une belle transition aux États-Unis.
Ouais, puis, mais il y a comme une vague de haine un peu, hein, sur, pas Prisoners, voyons l'autre, voyons pourquoi j'ai le pire blanc de l'histoire. Ouais, Enemy. Moi, Enemy m'avait fait, en fait, l'inverse, je l'attendais pas du tout, puis je l'ai trouvé vraiment fichtrement intéressant, ce film-là. Bref, moi, j'aime bien, en fait, son espèce de cycle de cinéma américain, Denis Villeneuve, puis on va lui faire confiance, hein, s'il est là en sélection officielle à Cannes, puis qu'il... Qui a pas peur de d'afficher en fait son nouveau film comme étant son film le plus abouti, ben on va le croire sur parole. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une grande œuvre sous les mains. Hein.
D'ailleurs, pour l'anecdote, puis pour ce que ça vaut, mais Denis Villeneuve est quand même l'un des seuls cinéastes de l'histoire à avoir en ce moment plus qu'un film dans le top 250 d'IMDb avec Incendie puis Prisoners.
Ouais.
Donc, c'est quand même, je veux dire, aux côtés de les Hitchcock, Chaplin, Orson Welles, tout ça.
Christopher Nolan.
qui est le seul que tous ses films est dans
le top 30. Genre.
Non, mais pour ce que ça vaut.
J'allais dire exactement ça, pour ce que ça vaut.
Ouais, donc voilà, alors Cannes, c'est dans deux semaines, bien sûr, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt de l'autre côté de l'Atlantique.
Je peux-tu juste dire un petit shout au Shao Shen? Ouais. Je pense que ça, c'est un des films aussi que j'attends le plus, donc...
Puis en plus, là, on fait juste parler de la compétition officielle, mais tu sais, un certain regard aussi, c'est fort, là, avec entre autres une voix à Pichapong, Murasita Cool, Kiyoshi Kurosawa, que j'aime bien, Naomi Kawase...
Par contre, c'est étrange. Tu sais, Khan a vraiment sa royauté, puis Joe, il l'appelle Joe, là, à Pichapong, Murasita Cool, tu sais, il a quand même gagné la Palme d'Or, lui aussi, c'est un habitué un peu des plus grands éloges, donc que son film soit un peu, ça fait vraiment drôle à dire, là, relégué, mais... Tu sais, le gars, il gagne une Palme d'Or, puis après ça, il est pas dans la compétition officielle la fois d'après.
Tu le film est juste moins bon, puis c'est correct, là?
Oui.
Je fais avoir mais du hit and miss.
Non, je fais, mais c'est un pensée bien. Je trouve ça quand même... j'ai trouvé ça, finalement, assez étrange, finalement, que Racita Cool soit pas en compétition officielle. En fait, c'est celui que j'aurais peut-être le plus attendu dans l'autre. Quoique, Naomi Kawase aussi, hein, elle faisait tout. C'était une habituée de Cannes, vraiment, beaucoup. Gagne jamais les plus grands prix, mais toujours là, dans les plus grandes compétitions. Là, on est dans un certain regard. Mais tu sais, encore là, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Tu sais, je veux dire, t'es quand même à Cannes dans la compétition.
Puis il y a eu des films en compétition officielle au fil des années, pas très bons non plus.
Ah oui, my God.
Les mauvaises langues diront que la compétition, c'est plus classique, alors qu'un certain regard, c'est là qu'on met les films un peu plus expérimentaux.
Peut-être.
Donc, bon. Alors, voilà, Cannes, c'est dans deux semaines. Sinon, j'ai une annonce à faire. Personnelle, donc. Plus ou moins personnelle. Mais dès mercredi, le 29 avril, donc, le festival de films de Concordia débute.
Ah oui,
ben. Tu m'as fait peur. Je pensais qu'il y avait quelque chose de mauvais qui se passait.
Non, mais le côté personnel.
Fais plus jamais ça, Paul. Fais plus jamais ça.
Ah oui, on avait peur, là.
Le côté personnel de la chose. Non, c'est ça. Le côté personnel de la chose, en fait, c'est que le vendredi, donc 1er mai à 14h30, je suis invité sur un panel pour discuter d'écriture de film. Spécifiquement, on va parler un peu des débouchés, de la critique dans les journaux, les revues et les blogs. Donc, moi, je représente un peu le côté blog de la chose. Alors, si vous voulez me rencontrer, m'entendre dans mon merveilleux accent anglophone, parler des vertus de l'écriture cinématographique pour un site web et de tous les débouchés que ça implique, eh bien, venez à Concordia dans la grosse salle Hall. La salle, donc, quand vous rentrez directement au 1400 Maisonneuve,
ouest. Dépêchez-vous, il y a juste 700 places.
Donc c'est ça, il y a juste 700 places. Non, je ne penserais pas, c'est gratuit en passant, là, la conférence.
Justement.
Donc, voilà. Alors, je suis très honoré, très flatté d'avoir été invité. J'ai très hâte d'y aller pour ce festival auquel j'ai travaillé par le passé. Voilà. Sinon, le temps file vite.
Moi, il y a un autre petit truc que je voudrais parler, Paul, en fait.
Vas-y.
C'est un peu surprise, là, mais moi, je t'ai tenu au courant. J'ai commencé à écouter les Fast and Furious.
Les gars, c'est bon, il va falloir rappeler le podcast, le point de vue 100% Fast and Furious. On peut-tu ne pas parler de Fast and Furious cette semaine? Est-ce qu'on peut ne pas en parler?
D'ailleurs, la nouvelle,
puis je suis rendu à 3, j'en ai écouté 3 à date.
Mais ça fait 3 podcasts qu'on parle des Fast and Furious.
Non, mais Rémi, garde le cap parce que le 8e est annoncé déjà pour le 16 avril 2017.
Vin Diesel, on va en parler à chaque podcast jusqu'au prochain. Ouais. C'est-tu bon?
Ouais. Mais c'est parce que moi je commence. Là, j'étais vierge de Fast and Furious puis j'ai commencé. Mais à date, c'est vraiment pas si bon pour vrai. Je les écoute parce que Paul m'a dit rentre au 5, 6, 7. Donc, je commence. Là. Donc, je veux pas en parler trop. Je veux juste parler d'une scène dans le 3 qui m'a beaucoup marqué, Rémi, que vous pouvez regarder.
Non, je te coupe. Fais comme ton bon de ton avec Fast and Furious. T'en fais un par semaine, un par podcast.
Mon bon de ton, il a craché après 4 semaines. Fait que
Justement.
ça devenait répétitif. J'espère que Fast and Furious sera pas aussi répétitif que...
Ben déjà, les 3 premiers sont assez distincts l'un de l'autre. Il faut au moins reconnaître ça.
Ouais, puis
pas nécessairement pour le mieux.
Même je suis pas un gars de char, hein. Comme je pense que vous connaissez, j'ai même pas de permis de conduire. Là, fait que tu sais, c'est à ce point-là que je suis pas un gars de char. Là, mais je veux juste parler d'une scène dans le 3e qui mérite d'aller la regarder sur YouTube. C'est une scène de drifting qui est une espèce d'analogie sexuelle. Puis c'est genre la chose la plus drôle que j'ai vue dans ma dernière vie. Puis c'est juste une fille qui parle de comment prendre les courbes en faisant du drifting. Ça la rend complète et horny. Puis là, c'est comme une série de voitures qui se promènent. Des voitures, je sais pas si elles sont dans CGI, là. C'est tellement fake comme scène. Puis ils se promènent, puis ils driftent en cœur. C'est comme une espèce de ballet de voitures qui drift sur des courbes. Pendant qu'ils parlent de l'analogie sexuelle de drifter, là. Ça valait vraiment la peine d'écouter le 3e juste pour cette scène-là. Donc, mais ouais, à date, c'est du no-brainer, là. C'est du cat food for my mind. C'est comme ça que je peux considérer ça.
Je suis un peu déçu que tu n'apprécies pas la subtilité des comparaisons femme-bolide, mais de la franchise.
Puis j'ai commencé le 4, j'ai écouté la scène d'ouverture, puis on m'a dit que c'est le pire. La scène d'ouverture était pas si mal, c'est une belle scène d'action.
Ben moi, je pense que le 2e, il était pire que le 4e, mais c'est kiff-kiff. Mais le 4e, tu vois, c'est vraiment...
pour m'encourager à continuer, là.
Mais c'est parce qu'il y a vraiment un segment en fin de film qui reprend au complet une scène genre déjà vue dans le film, puis tu te dis comme, était déjà plate au début, pourquoi tu la rejoues, genre? Mais tu vas comprendre. Mais bon, alors...
On peut changer de sujet, je voulais juste dire que j'ai commencé... j'ai pas écouté la trilogie de la vengeance, mais j'ai écouté la première trilogie de Fast and Furious.
Ça fait combien d'années qu'on se connaît, puis que je t'ai dit d'écouter Old Boy, puis d'écouter cette trilogie-là, puis là, comme, de même, je parle un peu de Fast and Furious, puis tu m'as écouté ça
religieusement. Un peu, Paul. Tu parles un peu de Fast and Furious.
Ouais, mais ça fait quand même pas aussi longtemps que je t'en parle que, que Park Chan-wook.
Je trouve que c'était le fun, le dernier podcast, de parler de Winter Sleep, là, non?
Ben, écoute, OK, on va revenir un peu à du cinéma un peu plus sérieux pour toi, Pascal.
Ben non, je te dis fâche, j'écoute de tout. Puis by the way, non, c'est vraiment une parenthèse, mais je pense que c'est super simple de regarder de tout, puis tout ça, puis vous le savez, je fais juste...
On s'est complimenté là-dessus, le podcast, on trouve une belle balance...
Oui, je suis d'accord. Bon. Donc, parlant de films d'époque français adaptés de romans...
oh my God, t'as vu le journal d'une femme de chambre.
Quel bridge magnifique entre Fast and Furious et je sais pas quoi.
Donc, j'ai eu la chance de voir cette énième adaptation, cette fois-ci de Benoît Jacquot, du Journal d'une femme de chambre, adapté du roman éponyme. Grand classique de la littérature, supposément, je ne l'ai pas lu. Adapté, entre autres, par Buñuel, je pense que c'est la version la plus connue.
Ouais.
Et donc, cette réadaptation met cette fois en scène Léa Seydoux, qui est très bonne dans le rôle. Hein, je pense qu'elle elle a vraiment un charisme, une présence à l'écran qui est très forte et qui lui convient beaucoup mieux, en fait, dans des rôles comme ça de composition. Donc, elle joue la femme de chambre éponyme qui s'appelle Célestine, qui, dans le fond, une femme de chambre jeune, un peu arrogante, orpheline. Non, en fait, elle n'est pas orpheline, pardon. Mais disons qu'elle ne vit plus avec ses parents. Et elle est placée dans différentes maisons. Elle est domestique, donc, une bonne. Mais elle, souvent, elle quitte les maisons, elle fait de l'attitude, alors que là-bas, à cette époque-là, pour les gens un peu de cette classe sociale, c'est comme...
Bonne, c'est ça. C'est un peu une décoration. Là. Ça n'a pas d'opinion, puis ça fait ce que ça a.
C'est peur. Ça. C'est impensable de refuser une maison. Puis là, d'ailleurs, à chaque nouvelle entrevue qu'elle doit faire avec les maîtres de maison, ils leur demandent pourquoi est-ce que tu es parti, pourquoi est-ce que tu volais, est-ce que tu es propre. Des trucs comme ça qui sont assez cocasses, finalement. De voir ça avec le recul, évidemment, historique. Donc, c'est un rôle qui va très bien parce que Léa Seydoux, le problème, puis c'est le problème pour beaucoup d'actrices françaises qui percent à l'international, c'est que là, elle va toujours balancer sa carrière entre des rôles, souvent pour les États-Unis, pour Hollywood, des rôles finalement vraiment en poche, comme mettons dans Mission Impossible ou dans le prochain James Bond. Bon, je ne l'ai pas vu, j'imagine que son rôle va être assez petit. Puis
ou dans Grand Budapest Hotel. Ah oui.
Ouais, c'est ça.
Non, je fais des blagues. Elle était correcte, mais
ça ne disait même pas que c'était elle, en fait. C'est vraiment. Non, mais dans c'est le sens. Important comme ça, ouais, ouais.
Je lançais la blague parce que, tu sais, je veux dire, c'est le bal des caméos, ce film-là, puis elle, c'est vraiment. Ouais. C'est presque ça, là. C'est un caméo, là. Je veux dire, elle a comme trois lignes, je pense.
C'est mais ça. Bon. Puis elle joue aussi à la toute fin de Minuit à Paris. C'est comme la nouvelle fille que rencontre Owen Wilson à la toute fin qui s'est à parler. Un autre caméo. Mais c'est ça, donc, c'est ça qui est dommage, c'est qu'elle va alterner entre les très bons rôles, donc en terre natale, souvent, où elle peut se permettre, tu sais, qu'elle est vraiment comme dans les actrices les plus en vue en ce moment, surtout après la vie d'Adèle, et les rôles un peu de seconde zone à l'international. Donc, ça, évidemment, c'est un film vraiment qui est centré autour d'elle. Mais en personnage secondaire, il y a notamment Vincent Lindon qui incarne donc un autre des domestiques de la maison, qui lui, c'est vraiment une espèce d'homme macho, homme à tout faire, tu sais, sale, toujours dans les mêmes habits, très ruste, c'est un vrai homme. Mais le problème, en fait, lui, il est très bon, Vincent Lindon, dans son rôle, mais le rôle est tellement mal écrit. Pour environ une heure du film, qui dure à peine 1h30, là, il fait juste envoyer comme des regards un peu menaçants, un peu tendus sexuellement envers cette nouvelle domestique. Puis ils vont pratiquement pas se parler, ils vont juste dire des bonjours, des trucs comme ça. Puis à un moment donné, il y a tellement de plans de lui qui la regarde que ça devient maladroit. Puis ça devient quasiment, j'avais le goût, des fois le fou rire, comme avoir un autre comme insert de lui qui la regarde marcher, puis qui s'en va, puis tu dis, bon, éventuellement, ça va déboucher sur quelque chose. Puis effectivement, le troisième acte, ça se débouche sur quelque chose. Puis ceux qui connaissent un peu l'histoire sachent vers quoi ça se dirige, mais c'est juste que c'est maladroitement mis en scène, je trouve, dans cette version-là. Autre chose, le roman, bon, l'histoire est assez classique. T'sais, c'est une histoire que même si on ne l'a pas lue, on la connaît. C'est cette femme forte, un peu à l'avant sur son temps, qui est en fait une espèce de regard sur l'archaïsme et puis sur le sexisme de l'époque. Et éventuellement, elle veut un peu changer de classe sociale, de statut. Évidemment, les maîtres de maison qu'elle sert sont un peu bonasses, sont un peu cons. Le maître, lui, il est un peu cochon. Il fait les avances tout le temps. Il y a ouvertement une ou deux maîtresses. Il y a un voisin qui est très, très drôle, un ancien capitaine de guerre qui a un peu perdu la boule. Lui, c'est comme mis en couple avec sa nouvelle bonne. Et à un moment donné, il a une conversation très drôle avec le personnage de Léa Seydoux, ce capitaine-là. Et puis, il lui dit qu'il a mangé de tout pendant la guerre, des racines, des écureuils, qu'il est capable vraiment de survivre n'importe où. Puis, il y a un petit furet, puis il dit « Ouais, mais vous mangeriez pas votre furet quand même. » Puis, il se met à comme... Il casse le cou de son furet, puis il ordonne à sa bonne de le faire cuire. Donc, vraiment un personnage coloré qui fait du bien au film, parce que le film, en fait,
C'est son... drôle ou c'est
pas drôle, ça? Ben, ça, c'est très drôle, en fait. C'est ça, ce
personnage-là. Je me demande si c'est drôle. C'est ça... Pour moi, c'est un peu ben, dramatique, là, mais...
Non, mais faut voir l'interprétation de l'acteur, puis à quel point c'est joué pour la blague, c'est joué pour un peu... C'est trop gros. Puis ça apporte une bouffée d'air frais au film, parce que le film, au final, ça serait malhonnête de dire que je me suis pas ennuyé. C'est, bon, c'est les anecdotes d'une bonne, tu sais, qui... apprend son métier, puis éventuellement qu'il y a des plans d'évasion. Puis c'est le genre de film historique français. Tu sais, Truffaut parlait de la qualité française, des espèces de films qui bousculent rien, mais qui sont très bien faits, très maîtrisés. Mais même ça, au niveau du cinéma, je trouve que, comme si par peur de ne pas être assez cinématographique, le cinéaste Benoît Jacquot avait multiplié les plans de caméra puis les mouvements inutiles. Des espèces, des fois, juste des scènes, mettons, elle est en chariot, puis elle se fait amener de la ville à la maison qu'elle doit servir. Puis là, on multiplie là, les zooms, les travelling, les 360 autour de la charrette pendant que ça se promène. Oh. On n'a pas besoin d'autant de cinéma, tu sais. Puis quand c'est des mouvements juste pour du mouvement, ça vient déranger, puis ça apporte l'attention sur soi. Parce que, veux pas, bon, c'est un drame de chambre, puis il n'y a pas grand-chose qui se passe.
Mais, ça masque un peu un manque de confiance finalement envers son matériel par moment, tu sais.
C'est mais ça, parce que avec un plan, c'est super facile à raconter, tu sais.
Ouais.
C'est Micheline Langteau, j'ai retenu quelque chose dans ses cours de scénarisation. Elle disait, si ton personnage est du point A puis apparaît au point B, c'est parce qu'il a fait le chemin entre les deux. T'es pas obligé de tout voir.
Ouais, ouais. Ben, il y a quand même un certain. Belle citation, Rémi. Mais ça a quand même un certain intérêt dans le sens que vraiment le temps qui passe là-dedans, à cette époque, c'est pas le même qu'aujourd'hui. T'sais, aller en charrette de Paris à une ville dans le nord, ça prend du temps, ça prend des jours. Donc, il y a ce côté-là un peu.
Non, faut montrer le voyage, faut montrer ouais. que c'est une entreprise et tout ça. Non, tout se peut, puis je peux comprendre, mais effectivement, je rebondissais un peu sur ce que tu disais de façon plus. Un peu sur la philosophie du cinéma, là, tu sais, je pense que être bref, d'un, c'est une vertu, puis de deux, justement, c'est attirer l'attention sur un artifice, tu sais, dans des moments ça. Comme ça, dans des finalement. Puis aussi, c'est parce que ouais. ça dévalorise à la pièce, finalement, le mouvement de caméra qui va avoir une signification précise aussi, tu sais.
Exactement.
De la même façon que, tu sais, si tu as des inserts tout le temps, ben, à un moment donné, l'insert important, ben, tu vas le zapper, là, tu sais, tu comprendras pas que c'est ça que tu voulais montrer puis appuyer, tu sais. Donc, finalement, c'est que la surenchère dévalorise finalement ou aplanit le moment important ou l'effet important. Là,
tout à fait. Donc, Journal d'une femme de chambre, c'est à l'affiche de Benoît Jacquot. Je le recommande pas vraiment. mais si vous aimez beaucoup les films historiques, évidemment, la reconstitution, c'est très bien. Les robes de Célestine, c'est très impressionnant. T'sais, c'est le genre de film qui aurait beaucoup de prix artistiques dans un futur Gala des Césars.
Ou au Festival des films du monde.
Ou au Festival des films du monde. Ben là, il est déjà à l'affiche, donc il ne sera pas présenté. Mais, voilà.
C'est tellement un troll, Rémi.
Oui, il fallait. Wildcard, vous vous ennuyez.
Mais sinon, Rémi, il y en a qui l'aiment chaud.
Oh! Oui, j'ai écouté dans l'avion Some Like It Hot, j'avais jamais vu ça.
Bon, ce classique, ça, donc, de Billy Wilder, qui est considéré parmi les meilleures comédies de tous les temps dans pas mal tous les palmarès. Ça.
Qui est tout près, en fait, dans le top IMDb, on en parlait tantôt, mais tout près de The Apartment, là. J'ai pas vu beaucoup de Billy Wilder, hein, mais The Apartment, moi, ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué. Je pense que c'était Pascal, tu m'avais complètement poussé ce film-là. On s'entend que Some Like It Hot, on est plus dans un truc très comique, là. On a moins le côté dramatique de The Apartment, qui est pour moi la romance là-dedans, c'est tellement puissant comme film. Disons que j'ai passé un super bon moment. Je m'attendais pas du tout à ça, en fait. Je pensais pas que c'était un film de gangster. Tout ce que je savais, c'est que les deux acteurs principaux finissaient par s'habiller en femme, puis ils chantaient ils faisaient de la musique, en fait, avec Marilyn Monroe. C'était la base de ce que je savais, mais je savais pas que de base c'était un film de gangster.
C'est assez pour le vent.
Exactement. C'est quand même, je vais utiliser l'expression ballsy. C'était très ballsy ces années-là, en fait, là, de faire ce genre de comédie-là. Une belle inspiration, en fait, pour Jack and Jill de Adam Sandler, on s'entend. Silence. Tu mettrais un son de criquet juste ici. Mais je sais pas quoi dire, en fait, tu me lances ça comme ça, j'ai juste vraiment apprécié le film.
C'est un des rôles principaux pour lequel on se rappelle Marilyn Monroe aussi de nos jours.
Ouais,
puis on voit pourquoi elle chaîne, en fait. Elle chaîne, quand elle est à l'écran. Vas-y, Pascal.
Non, mais oui, elle chaîne, mais je pense que c'est quasiment plus l'intelligence de Billy Wilder que réellement sa prestation. C'est ça qui est surprenant. Puis l'effet Marilyn Monroe est vraiment un effet qui est extra elle. Tu sais, il y a quelque chose de d'iconique de l'époque. Il y a quelque chose dans une espèce de sex appeal qui est juste sur la ligne du vulgaire, mais qui l'est pas complètement, qui l'est pas, ben, qui l'est pas, en fait.
Elle était pas dans la lignée de Mae West, en fait, c'est ça, l'affaire.
Non, c'est ça. C'est ça, puis elle a toujours su jouer des personnages qui titillent, qui stimulent l'imagination sans jamais, finalement, tomber, tu sais, justement, tomber dans le Mae West, justement, ou tomber dans le vulgaire.
Elle est très innocente, elle croit en la romance.
C'est ça,
elle sait qu'elle veut rencontrer l'homme de sa vie. Puis l'homme de sa vie, c'est un millionnaire, en fait. Exactement. Qui va l'amener sur un bateau.
C'est la femme enfant qui est comme pas complètement, tu sais, qui connaît ses charmes, mais qui est pas en plein contrôle non plus de ses charmes, tu sais. Fait qu'il y a quand même un peu l'homme, là, tu sais, qui finalement, elle a besoin d'un homme, finalement. T'sais, c'est ça, un peu, le rêve que Marilyn Monroe a cultivé, là.
Puis elle arrive très, très tard dans le film, en fait. Dans le fond, je pense qu'il y avait quasiment une demi-heure de passé quand elle est vraiment là, elle est vraiment présente dans le film.
Ouais, mais quand elle arrive, c'est les plans avec l'huile sur la lens pour la faire complètement bouffer tout ce qu'on peut de l'écran, effectivement. Mais vous savez, en fait, qu'il y a beaucoup de behind the scenes. Hein? On parlait tantôt, en fait, sur celui de l'île du Docteur Moreau, puis on en a énuméré quelques autres, mais vous savez que Marilyn Monroe, sur Somme la Quétrope, là, c'était l'enfer de travailler avec elle. Là. C'était genre, il y a la fameuse réplique Tony Curtis qui dit « Embrasser Marilyn Monroe, c'est un peu comme embrasser Hitler. » Bon, whatever that means. Là. Mais, non, mais comme ça a été des guerres publiques, ça a été vraiment...
Elle apprenait pas ses lignes aussi. Ça, j'avais lu ça. Là. Il y a une ligne qu'elle a refaite. C'est une ligne toute simple. Elle savait pas du tout à chaque fois. Alors, ils ont fait des prises et des prises et des prises.
Mais c'est parce que, en fait, c'est que je pense que des histoires comme ça, ça démontre un petit peu peut-être qu'est-ce qu'on aime, puis ça a été quoi autant cette fascination-là sur Marilyn Monroe, c'était sa fragilité, parce qu'elle l'était énormément, cette insécurité-là, qui est le propre de beaucoup de grands acteurs. Je pense que, ou tu sais, on parlait de Marlon Brando, là, qui est viré sur le top tantôt pour les Docteurs Moreau, mais Marlon Brando, là, moi j'ai lu des bios sur lui, puis tout ça, puis c'est un personnage iconique, puis très intéressant, donc veux pas, tu sais, on revient toujours à ces figures-là, mais c'est finalement quelqu'un qui est complètement insécure, là, puis que c'est toutes les ce qu'on peut dire, il est fou, ou il est sauté, ou il est exubérant, ou il est hurluberlu, ou tout ça, il est excentrique, finalement, c'est des façons de vivre avec une espèce d'insécurité qui est trop forte, qui est trop grande, puis c'est des gens qui ont souvent qui virent fou avec la pression, tu sais, puis c'est pas tout le monde là qui sont capables de rester comme ça sur le top du monde. Puis Marilyn Monroe, finalement, tous ses problèmes de dépendance, puis ça découle, puis elle s'est jamais même elle-même considérée comme une grande actrice, elle-même était complexée de ses collègues, elle avait le syndrome de l'imposteur, donc finalement c'est toute cette fragilité là, en fait, qui fait que je pense que qu'il y a une espèce de deuxième degré de lecture à Marilyn Monroe, qui est vraiment, disons-le, pas une grande actrice au niveau jeu là, du terme. Mais dans Somme la Quétrope, c'est elle, c'est Monroe. Pis,
ben, c'est ça, il sait de l'utiliser de la bonne façon. Mais c'est ça. Est-ce que ça mérite le prix à payer pour le behind the scenes, justement, de l'avoir là un peu comme Brando sur l'île du Docteur Moreau? Est-ce que tout vaut la peine de l'avoir là pour le film que ça va donner au bout du compte?
Ben, on en parle dans un podcast encore, tu sais, 50 ans c'est plus tard, ça, 60 ans plus
tard. Exactement.
Les grandes histoires de Brando, je dis, c'était Apocalypse Now, ces fameuses scènes où il lit ses répliques un peu partout parce qu'il connaît rien, il est trop gras, fait qu'il shoot il shoot à moitié éclairé, tu sais. Je veux dire, ces histoires-là, c'est l'histoire du cinéma, ça. C'est du cinéma, finalement. Tu sais, ça dépasse un film. Puis c'est ça qui fait que, comme le cinéma est truffé de légendes, puis qui fait qu'on s'intéresse à l'histoire du cinéma, tu sais, finalement, comme on pourrait s'en... Tu sais, comme on lirait un feuilleton, là. Tu sais, je veux dire, ça les prend, ces espèces de mythes et légendes-là. Puis, tu sais, la Monroe, c'est ça. Mais puis Somme la Quétrope, en fait, c'est vraiment... C'est le grand rôle. Marilyn Monroe, elle travaillait bien avec Howard Hawks. Supposément, là, que c'était un des réalisateurs avec lequel elle s'entendait le mieux, puis qui était capable de travailler avec elle. Parce que Howard Hawks a travaillé beaucoup avec elle sur Gentlemen Prefer Blondes, puis sur beaucoup d'autres. Elle fait des musicals. Elle est assez versatile, finalement, tu sais. sais, c'est un peu comme, tu sais, dans les jeux vidéo, il y a Mario Bros, là, qui est bon dans tout, mais qui est pas le meilleur dans rien, là. Tu sais, Marilyn Monroe, c'est un peu la Mario Bros des actrices iconiques, tu sais.
Wow! Okay, je vais pendant un bout, je me disais, on finit le podcast là-dessus, c'est tellement une belle note pour closer. Finalement, tu vas te faire une comparaison à Mario Bros, on vient tout casser. Non, mais effectivement, mais t'as absolument raison, puis en même temps, dans Some Like It Hot, c'est pas elle le personnage principal. Elle est comme le déclencheur. Jack Lemmon, les deux, là. Ils sont, les deux, en fait, le rapport entre les deux est vraiment, sont vraiment, vraiment génial. Puis j'ai trouvé, ben, j'étais surpris, en fait, c'est un film assez long pour une comédie de cette époque-là. En plus, c'est un film de 2h15 environ. Puis à un certain moment, je me demandais comment il allait closer. Le film se finit d'une belle façon. Je pense que la fin, je l'ai senti un peu rushée, en fait, là. Disons qu'il y aurait eu plus de façons de faire des dénouements avec les personnages, mais bon, le film est très satisfaisant au final, là. C'est vraiment drôle. C'est encore drôle après toutes ces années-là. Puis ça, c'est un beau pari pour la comédie de rester drôle, de traverser le temps, là. Genre, Jack and Jill, c'était pas drôle quand c'est sorti. Bon, ok, c'est un mauvais exemple, là. Mais, non, mais tu sais, il y a de la comédie qui vit dans une époque. Tu regardes des films des années 90, des comédies des années 90, puis c'est, il y en a quelques-unes qui sortent du lot, mais ça fait pas si longtemps. Mais en même temps, il y a un type d'humour qui se perd, puis il y a une façon qu'on traite les sujets qui est rendu un peu plus edgy. Puis c'est un peu... je vais peut-être faire une comparaison avec les Simpsons qui se sont fait bouffer par Family Guy à un certain point. Puis les Simpsons, ils ont essayé de compenser en devenant Family Guy. Puis c'est un peu c'est un peu l'humour qui évolue, puis t'essaies d'aller avec ton époque. Mais tu sais, Some Like It Hot, ça reste super drôle, puis ça reste quand même... pas super edgy, mais c'est quand même edgy pour ce que c'était à l'époque, là.
Mais pourquoi ça reste aussi drôle, je pense? Puis pourquoi c'est aussi intemporel? Puis en fait, les grandes comédies sont comme ça. Puis t'as nommé The Apartment. Moi, The Apartment, c'est peut-être mon préféré du lot parce que justement, peut-être qu'il y a une balance drame-comédie qui est comme juste
parfaite. Puis le côté dramatique génial. Est incroyable mais, dans ce film-là.
Mais pour revenir à ça, puis à l'espèce de touch un peu, Some Like It Hot, où puis on parle de touch même, tu sais, les grands... auteurs d'Hollywood qui ont fait de la grande comédie intemporelle, justement la Lou Bitch, on parlait de la Lou Bitch tout justement, puis tu sais où Preston Sturges, Sullivan's Travels, c'est une des meilleures comédies hollywoodiennes de tous les temps à mon sens, puis tout ça. Ceux-là, c'est parce que pourquoi en fait que ça marche, je pense qu'il y a une qualité dans le jeu, il y a une qualité dans les relations humaines au cœur, puis il y a une qualité dans l'interprétation. Puis tu sais dans le fond, Some Like It Hot, c'est parce qu'aujourd'hui, une comédie là, vulgaire qui irait vraiment pas plus loin, là, finalement, utiliserait juste la prémisse des gars qui sauvent des gangsters en se déguisant en drague, puis ce serait juste ça le film. Finalement, Some Like It Hot, ça, c'est une composante du film. Puis oui, c'est la facette qui promouvoit pour les posters, puis pour tout ça, parce que bon, il faut quand même
vendre. Mais moi, je savais pas, en fait, même ayant vu les posters, mais... tu sais, les posters, c'est Marilyn Monroe, puis les deux gars qui sont là, tu sais, c'est. C'est pas si... moi, je savais pas, ça a été en fait un élément de surprise que ça commence comme un film de gangster, là.
Ah oui, non, à ce niveau-là, c'est ça, mais je veux dire, pour revenir à l'intemporalité, puis peut-être pour finir sur cette note-là, c'est que finalement, c'est parce que c'est mené par main de maître, tu sais, c'est Wilder, là, c'est le plus grand, puis c'est avec des comédiens, là. Jack Lemmon, pour de vrai, c'est un des grands sous-estimés. Il est pas assez dans la discussion qu'on parle de grandes performances, parce que moi, ce qui fait, par exemple, dans The Apartment, puis c'est dur de faire de la bonne comédie, mais Jack Lemmon, je veux dire, ces gars-là, il est incroyable. Puis mon point, c'est que c'est ça va toujours être intemporel. Des bons acteurs qui se donnent des répliques savoureuses, puis qu'il y a du timing, puis qu'il y a du non-verbal, puis qu'il y a de quoi qui se passe, puis qu'il y a du momentum. Je veux dire, ça vaut bien plus que la prémisse, tu sais, des gars qui se déguisent en femme, là. C'est ça, je veux dire, ça, Jack and Jill peut le faire, ou n'importe quel comédicon peut le faire, là, tu sais. Mais Jack Lemmon, puis Tony Curtis, là... Puis Marilyn Monroe, quand elle sort bien, je veux dire, ça se réplique pas, tu sais. Ça, c'est du cinéma.
Mais Billy Wilder aussi laisse la place à ses comédiens, puis il laisse la comédie arriver avec les rapports entre les personnages.
Ouais, c'est ça.
C'est pas, tu sais, notre
pas des cinéma aujourd'hui. Situation,
c'est...
là, ouais,
c'est non, ça. Non, puis notre cinéma aujourd'hui, c'est très, très découpé, mais il va avoir des longs plans, en fait, où il laisse juste la comédie se créer entre les personnages. Puis j'ai entendu une quote de Harold Ramis récemment, en fait. Puis Harold Ramis, il disait. Je veux dire, c'est après Billy Wilder, là. Fait que, je veux dire, c'est un vieux concept quand même, mais Harold Ramis disait la comédie se vit en two shot. Donc, c'est quand t'as deux personnages dans un plan, puis tu vois leur rapport ensemble que ça devient drôle. C'est pas en découpant d'un plan à l'autre que ça va devenir drôle, tu sais. Là, c'est le trucage du cinéma qui rend ça drôle. Mais avoir deux comédiens face à face qui interagissent comme ça, comme dans Some Like It Hot, où c'est vraiment, vraiment maîtrisé, justement. Il fait confiance à ses comédiens, puis il fait confiance à son scénario aussi, là. Ça marche super bien, là. C'est vraiment drôle.
Bon, ben, des belles paroles.
Voilà, écoute, ça complète notre point de vue cette semaine. On va se quitter sur la bande-annonce du film. Avengers.
Ah non, pas Avengers.
Age of Ultron. De Joss Whedon. J'ai mon billet en IMAX 3D jeudi soir. 22h15. Ah, j'ai tellement hâte de voir
blasé,
ça.
Je suis blasé, j'ai plus le goût. J'en ai trop. Ouais, j'ai vraiment plus le goût.
Donc, si je comprends bien, les gars, vous, demain soir, vous commencez pas le marathon de 11 films et 27 heures au Mans Scotia. Hein?
Je suis vraiment tanné, là.
Mais hey, le pire, là, c'est que je me dis... Tu sais, des fois, chez nous, on fait des marathons de 12 heures de films, puis c'est quand même intense, là. Ouais. Hey, 27 heures, puis c'est que des films Marvel l'un après l'autre.
Ah, je suis comme... La formule, cool, on l'a vu.
Mais je sais pas, c'est comme...
C'est tout le temps la même formule. Il y a tout le temps une affaire magique, là, qu'il faut qui empêche de détruire le monde, là. Il y a tout le temps la bébelle magique, puis là, tout le monde se met ensemble, puis essaie d'arrêter. Puis,
Non, mais ça, c'est d'accord.
Pour ça que Captain America, pour moi, le Captain America 2, parce que je l'ai quand même vu, je suis quand même allé le voir, je l'ai mis dans mes mentions, j'avais vraiment aimé ça. Un thriller politique avec des personnages de Marvel, j'avais trouvé ça vraiment cool. Mais il y a encore une bébelle magique, c'est sûr. Il y a tout le temps de bébelle magique.
Mais je trouve que le concept même du marathon comme ça, c'est assez rare pour le souligner. Je trouve ça quand même assez cool qu'on ait ça à Montréal, la chance. Bon, j'imagine que les gens aussi vont prendre des pauses. J'imagine que ceux qui ont acheté les billets, c'est des gens qui ont déjà vu tout le film.
En bas de tort 1, tu t'en vas faire une sieste maintenant.
Ouais, non? Tu t'en tords.
Oh, bon. il est rendu un peu trop tard.
T'es pas tard. Bon, alors, c'était notre point de vue. Mon nom est Paul Andrio, j'étais avec mes collègues.
Rémi Fréchette.
Pis moi, là, Pascal Plante.
Il veut pas être associé au crochet. I was designed to save the world. People would look to the sky and see hope. I'll take that from them first. There's only one path to peace. Their extinction. I tried to create a suit of armor around the world, but I created something terrible. Artificial intelligence. It's called the Ultron program. I'm sick of watching people pay for our mistakes. Isn't why we fight so we can end the fight and go home? Well, you amazingly failed. Here we all are, with nothing but our wit and our will to save the world. So stand and fight. No way we all get through this. I got no plans tomorrow night. I'm always picking up after you boys. Can tear them apart from the inside. That's the best you can do. You had to ask.